Bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture consacrée aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Et ce soir, on tente d'échapper à la puissance de la surveillance technologique, des drones qui circulent plus librement au-dessus de nos têtes jusqu'au déploiement de la vidéosurveillance algorithmique à l'occasion des prochains Jeux Olympiques. La population est plus que jamais sous l'œil du pouvoir. L'état d'urgence devient permanent et la loi, comme celle de la sécurité globale votée en 2021, renforce l'arsenal de surveillance. Et si le sursaut venait de la sous-veillance, concept au croisement de l'art et de l'activisme citoyen, comment reprendre le contrôle et surveiller les surveillants pour renverser les rôles? Quels sont les outils pour détourner, braconner ou braquer le regard et l'attention vers ceux qui sont censés faire régner l'ordre? Quelles sont les origines et les enjeux de la sous-veillance? Et comment peut-elle représenter un contre-pouvoir démocratique à l'approche politique et esthétique? Voici les questions du soir, trois invités pour y répondre. Jean-Paul Formentreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes socio-anthropologue, chercheur au Centre Norbert Elias à Marseille, critique d'art et auteur de Sous-veillance, l'œil du contre-pouvoir. C'est apparaître prochainement aux presses du réel. Vous pourrez revenir sur le concept de sous-veillance, analyser l'impact de la collaboration entre les GAFAM et les États dans la surveillance des individus et décrypter le panoptique inversé dans le prolongement des analyses de Foucault. Lune Riboni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8 et autrice de Vidéoactivisme, contestation audiovisuelle et politisation des images. C'est à paraître aussi prochainement le 19 mai aux éditions Amsterdam. Vous pourrez analyser le pouvoir du regard et les moyens déployés par les institutions pour contrôler celui des individus et nous expliquer cette nouvelle guerre des images sur les réseaux sociaux entre la police et les manifestants. À distance, Geoffrey Dorn, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes designer indépendant et auteur de Hacker Protesteur, c'est sorti l'an dernier. Vous pourrez revenir sur le lien entre le hacking et la lutte contre la surveillance et évoquer les outils à disposition des citoyens pour échapper à la surveillance numérique. Au programme également les nouvelles du meilleur des mondes et la chronique d'Aurore Gates, journaliste à Numérama, qui plongera dans la rébellion d'Hunger Games. Et oui, il y a une rébellion Hunger Games. Notre émission s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde toujours sur la chaîne Twitch de France Culture. Vous êtes nombreux à nous voir chaque semaine. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à y aller. Tiens, pourquoi pas, dès maintenant. Le meilleur des mondes, c'est parti.
Le fait est, c'est qu'on circule dans les villes, on circule dans des prisons à ciel ouvert, en fait.
Là, on se retrouve au 21e siècle avec des technologies de reconnaissance faciale, de reconnaissance par l'iris, en plus des empreintes digitales, de l'ADN. Là, on a les moyens de mettre en place une surveillance et une traçabilité permanente des individus.
J'ai commencé à chercher les caméras et les placer sur une carte pour voir si c'était possible d'aller d'un point A à un point B sans être filmé. J'ai réalisé que c'était pas possible.
Le point qui nous intéresse, c'est aussi de voir qu'il n'y a pas une omnipotence absolue des systèmes de contrôle, mais au contraire une capacité permanente à déjouer ces systèmes.
Ah voilà, le mot est lâché. Sous-veillance, qu'est-ce que ça veut dire que ce mot?
Ben, la surveillance, c'est celui qui est au-dessus, qui a le pouvoir, qui prend l'information et qui l'utilise pour ses propres besoins. La sous-veillance, c'est l'opposé, c'est celui qui est au-dessous, qui est soumis au pouvoir et qui va utiliser toutes les technologies contemporaines pour prendre l'information et pour les diffuser sur Internet.
Le téléphone portable, c'est l'arme du désarmé. C'est l'idée de dire, dans la guerre de l'image, je vais empêcher l'adversaire de s'armer.
Putain, on est filmé là !
On est filmé ici aussi, dans ce studio de France Culture. On est également sur écoute chaque vendredi, samedi. On a le plaisir justement de vous retrouver dans ce meilleur des mondes. Et ce soir, on va tenter de montrer comment un art de la sous-veillance peut révéler ces mécanismes invisibles du pouvoir. Pour en parler donc, Jean-Paul Formentreau, qui consacre un ouvrage prochainement sur ce sujet. De la sous-veillance qu'on connaît assez peu finalement, ce concept, Jean-Paul Formentreau. Quelles en sont ses origines et qu'est-ce qu'il recouvre?
Alors, il y aurait peut-être deux interprétations possibles et concurrentes, finalement, de ce terme de sous-veillance. Chez certains auteurs, le terme renverrait à l'idée d'une surveillance partagée, d'abord, celle exercée par les citoyens sur eux-mêmes, que l'on pourrait rapprocher alors d'autres termes ou concepts tels que la vigilance en français, dont les mécanismes ont été abondamment étudiés, notamment par Vanessa Codaccioni ou Dominique Quesada, au sens d'une injonction à la vigilance ou à l'autocontrôle.
Donc là, c'est des citoyens qui surveillent entre eux, quoi,
voilà,
c'est ça hein.
C'est la surveillance d'autrui, ouais. L'autocontrôle. L'idée que l'on trouve aussi en anglais sous le nom de share-veillance, que l'on peut traduire par distri-veillance aussi, ou surveillance distribuée, qui est étudiée par plusieurs représentants du courant des surveillance studies, dont Claire Birchall notamment. Et dans ces deux cas, la vigilance répond à une injonction, voire à une imposition faite aux citoyens de centres surveillés, d'une part, effectivement, que résument bien les appels « soyez attentifs, soyez vigilants », etc., qu'on entend en permanence, et de partager leurs données aussi, d'autre part, des données récoltées et transformées en données fermées par un État surveillant. La surveillance pensée ainsi au sens de vigilance, ce qui, à mon avis, constitue un contresens, mais je vais y revenir, découle de l'obsession sécuritaire contemporaine, de l'obsession pour la transparence absolue de tout et de tous.
Et dans sa forme extrême, c'est ce qui peut donner même à la délation, s'il y a un citoyen
exactement,
qui va...
Voilà. C'est une injonction qui peut conduire, effectivement, à la généralisation des pratiques de délation. Mais à l'origine, ce même terme de surveillance a un autre sens que j'ai, pour ma part, préféré retenir et interroger, un sens qui est introduit par un ingénieur et artiste canadien du nom de Steve Mann. Le terme de surveillance, dans ce cas-là, n'est pas synonyme de vigilance, mais de contre-surveillance, au contraire, ou de surveillance inversée, vous l'avez dit. La surveillance renvoie alors à un renversement des transparences, un panoptique inversé, ou une contre-surveillance des pouvoirs étatiques, technologiques, etc. On pourrait traduire ça en anglais par « watching from below », regarder d'en bas.
Depuis le bas, effectivement.
Voilà, d'en dessous, sous veiller.
Dans une volonté de rééquilibrer, effectivement, ce rapport de force pour que le regard du bas ait un poids et puisse surveiller le surveillant.
Exactement. Et dans cette perspective, ce n'est plus à l'État ou aux GAFAM de tout savoir des citoyens, mais au contraire aux citoyens de tout savoir de l'État et des GAFAM, dont on sait pertinemment que tout en imposant une absolue transparence aux citoyens, aux usagers, ils cultivent au contraire pour eux-mêmes la plus grande opacité. Alors en ce sens, la surveillance revient à détourner l'œil du pouvoir et à le retourner contre les surveillants eux-mêmes. Et ce qui m'intéresse dans cette définition première de la surveillance, comme contre-surveillance ou œil du contre-pouvoir, c'est sa double dimension, une dimension réflexive, réflexionniste même, puisqu'il s'agit de tendre un miroir inversé, à la surveillance qu'il s'agit de documenter également, etc. Hein, c'est production de connaissances. Mais aussi un sens ou une dimension opératoire ou pragmatiste, puisque cela passe, et notamment dans l'art et pour les artistes, par l'invention aussi de nouveaux dispositifs de contre-surveillance.
Et voilà. Vous avez prononcé le mot d'art et d'artiste, et on aura l'occasion évidemment d'y revenir, parce que l'art sera aussi un champ que nous allons regarder de près par rapport à ce thème de la surveillance. On a bien compris, on a une vision très meilleure des mondes, c'est-à-dire un peu dystopique, qui peut amener jusqu'à une forme de délation. Puis on a une vision rendre le monde meilleur, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire redonner un peu plus de pouvoir aux citoyens. Et c'est bien cette surveillance-là que nous allons analyser dans cette émission. Lune Riboni, on a parlé de regard, de renverser le regard. Ça, c'est aussi une thématique qui est importante dans votre ouvrage à venir, car on sait très bien que voir, c'est le pouvoir. Il y a vraiment celui qui voit, c'est celui qui a le pouvoir.
Oui, celui qui voit, c'est celui qui a le pouvoir, et c'est aussi celui qui décrète ce qui peut être vu, qui a le pouvoir. Donc, il y a plein de réflexions possibles par lesquelles on peut le prendre, mais disons que il y a un peu deux pôles dans le regard. Il y a les regardeurs et puis il y a les regardés. Et c'est pris donc à la fois du point de vue, par exemple, de qui est-ce qu'on filme et qui est-ce qu'on ne filme pas dans le cinéma, par exemple. Mais pour ce qui est vraiment la question de la surveillance et du regard, ce qu'on peut dire, c'est que... donc ça, c'est une phrase un peu canonique qui a été reprise par un auteur qui s'appelle Mirzoëf, qui dit, voilà, la phrase du policier qui dit « circuler, il n'y a rien à voir », cette phrase-là, elle dit « c'est moi qui décrète ce qui peut être vu ». Voilà. Et donc ça,
c'est
une première chose.
Cette phrase-là, parce que le circuler, il n'y a rien à voir, justement, paradoxalement, donne justement cette idée qu'il y a quelque chose qu'on cache
exactement.
Et qu'on veut voir.
Exactement. Et puis ensuite, donc, il y a plein d'enjeux, en fait, au regard, entre, donc, qui peut regarder, qui a le droit de regarder, et puis qui est, au contraire, celui qui subit le regard de l'autre. Donc, par exemple, le regard des caméras, des drones, etc., de toutes ces technologies dont on parle. Mais en tout cas, on peut au moins penser en ces termes-là. C'est-à-dire que, De manière générale, dans notre espace social, il y a une asymétrie du voir. Voilà.
Il y a une asymétrie du voir, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les yeux sont aussi une cible qui a été privilégiée des pouvoirs autoritaires. Lorsqu'il y a des manifestations, on peut aussi viser les yeux. C'est pour, encore une fois, renforcer ce sentiment asymétrique de cacher, d'occulter, d'altérer le regard de l'autre.
Ouais, le regard, en fait, il était au-delà même des technologies et de la représentation. Le regard, il était au centre, en fait, des rapports de pouvoir dans plein de contextes différents. C'est à la fois, on peut citer donc l'histoire de Emmett Till, par exemple, qui est ce jeune africain-américain de 15 ans qui va être lynché à mort pour avoir regardé une femme blanche. Ça, c'est en 1955, et c'est une figure qui va beaucoup marquer, puisque là, c'est vraiment l'interdit du regard qui est fondé sur la différence raciale. Mais effectivement, l'autre exemple que je cite dans le livre, c'est dans le contexte de la révolution égyptienne. Il va y avoir cette rumeur, pas rumeur, parce qu'en fait il y a aussi des trucs très concrets, mais en tout cas que au moins un sniper ou plusieurs snipers visaient les yeux des manifestants. Et donc il y a des manifestants assez connus d'ailleurs qui vont justement perdre leurs yeux. Et il va y avoir donc en fait une manière de dans le mouvement révolutionnaire égyptien, en fait, de se centrer autour de ça et de le dénoncer comme étant un acte qui visait les yeux et qui visait à aveugler le peuple, en fait. Et donc, il va y avoir des gestes comme ça, de mettre des bandeaux sur les yeux des statues, dans un certain nombre d'endroits du Caire, de faire des graffitis aussi avec des visages avec l'œil couvert. Donc, en fait, il y a toute une incarnation dans les représentations de cette idée de l'aveuglement par l'État.
Voilà. Et justement, la figure de l'œil occulté, caché, altéré, on le retrouve aussi lors des violences policières contre les gilets jaunes, par exemple. On a beaucoup cette image, cet œil que l'on cache. Circuler, il n'y a rien à voir. On retient donc cette phrase. On va circuler jusqu'à Geoffrey Dorn, qui a des choses à nous dire, donc il y a des choses à entendre de la part de Geoffrey. On essaye donc d'analyser ce concept de surveillance, on l'a dit, dans la surveillance, dans la version du citoyen d'en bas qui tente de reprendre le pouvoir, avec une dimension, donc on le voit, horizontale pour tenter justement de lutter contre cette asymétrie dont on parlait à l'instant. Votre guide, Geoffrey Dorn, de Hacker Protesteur, est-ce qu'il s'inscrit justement dans cette approche horizontale? Est-ce que c'est un guide qui pourrait s'apparenter à de la surveillance?
Alors justement, merci pour l'invitation et merci de me prêter la parole par rapport à ça. Dans ce livre, donc Hacker Protesteur, j'ai essayé de rassembler 100 projets de lutte citoyenne. Alors, c'est de la lutte pour l'environnement, la liberté, la démocratie. Et en fait, l'intégralité de ces projets vient du monde entier. Hong Kong, évidemment, avec la révolution des parapluies, ce qu'il y a eu en France avec les gilets jaunes, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Thaïlande, l'Ukraine. Et en fait, grâce au numérique, à Internet, et il y a une forme de diffusion de ces savoirs de contre-surveillance, de ces savoirs d'outils inventés, improvisés, bidouillés, bricolés par des citoyens. Et en effet, il y a une totale horizontalité dans ces savoirs et ces savoir-faire que j'invite tout le monde à découvrir, à s'approprier, à détourner. Et aussi, je soulignerai qu'il y a un aspect culturel. Les Chiliens, quand ils manifestent, ils utilisent des filets de pêcheurs qu'ils lancent sous les roues des véhicules de police pour venir enchevêtrer les véhicules. Pendant ce temps-là, en Thaïlande, ils utilisent des tapis, par exemple, qui sont tissés localement pour venir éteindre les gaz lacrymogènes. Donc il y a une notion, une dimension culturelle très forte aussi d'adaptation de ces techniques en fonction du pays là où les manifestants se trouvent.
Voilà, merci pour effectivement tous ces exemples. Pour revenir justement à l'origine de la surveillance, donc de cet ingénieur canadien Steve Mann, à l'époque, je crois, Jean-Paul, on n'était pas du tout encore à l'ère du smartphone, on était au début des années 2000, et pourtant, il avait déjà imaginé une sorte de dispositif pour pouvoir lui filmer à hauteur d'homme.
Ah oui, il a utilisé toutes les technologies possibles et imaginables, de la vidéo, etc., des lunettes. Tout un tas de techniques, même cinématographiques, pour permettre de surveiller précisément. Et c'est un inventeur assez de technologie assez low-tech. Hein, tout ça est très bricolé. Enfin, il y a un côté. Il joue aussi avec ces instruments et ces technologies-là.
Il joue avec ces technologies-là, et c'est là où on peut quand même parler d'un temps d'avant le smartphone, le téléphone portable. On l'a justement entendu dans ce montage d'ouverture réalisé par Camille Mathy. On entendait David Dufresne qui dit voilà, finalement, le téléphone portable, le smartphone, c'est l'arme des désarmés. Et c'est vraiment justement cette possibilité de pouvoir filmer, de pouvoir justement dire circuler, il n'y a rien à voir. Et bien, si, il y a quelque chose à voir. En tout cas, moi, je vais montrer ce qu'il y a potentiellement à voir, ou s'il y a quelque chose qu'on nous cache, je peux l'éclairer. Lune Riboni.
Oui, hein, déjà un salut à David Dufresne, parce que évidemment, il a fait un travail très important sur pendant les Gilets jaunes, voilà, et que je pense que voilà, d'une certaine façon, il a été un acteur très important, pas celui qui filmait, mais celui qui relayait. Et je pense qu'il faudra aussi en parler de ceux qui partagent. Oui, bah évidemment, filmer la police, par exemple, filmer justement ce qu'on nous a dit qu'il n'y avait rien à voir, qu'il n'y avait pas à voir, bah c'est une manière d'y résister. Et ça a une histoire ancienne. Alors, je ne sais pas si on rentre là-dedans déjà, mais vous parlez de surveiller les surveillants. Une autre expression qui a été employée, c'était « policing the police », qui vient donc du Black Panther Party, et qui, pour le coup, était donc le fait de faire des police patrols. Donc, c'était suivre les policiers dans les quartiers pour les contrôler. Et dans ces gestes-là...
Quelle période, là ? On est en quelle période ?
On est durant la période de la lutte pour les droits civiques. Donc, Black Panther Party, on est... je ne sais plus exactement.
70.
Enfin, en 69, il me semble, à ce moment-là.
Fin 60, début 70, ouais. Où déjà, on suivait les patrouilles de police. Il y avait quoi ? Il y avait les caméscopes, il y avait des images.
Alors, c'est pas très clair à quel point les caméscopes étaient employés. C'est sûr qu'il y a eu des cas où c'était le cas. Mais d'abord, il y avait un truc de regard qui était de les suivre, en fait, pour les regarder. Et puis, par ailleurs, avec certains d'entre eux qui portaient des armes légalement. Donc, c'était des hommes noirs qui portaient des armes légalement et qui mettaient... beaucoup ont difficulté la police, mais au-delà de ça, effectivement, il y en a dans certains cas donc qui portaient aussi des caméscopes. Et donc, en tout cas, cette idée de surveiller la police, elle émerge déjà à cet endroit-là. Et puis après, elle va avoir toute une histoire un peu plus longue jusqu'à ce qu'on va appeler le cop-watching. Voilà, et les pratiques donc de filmer la police comme des formes collectives aussi de résistance.
Voilà, donc la cop-watching, effectivement, comme policier-watching, donc la surveillance, là, avec des outils technologiques. On va d'ailleurs voir si les effets du cop-watching ont été efficaces ou non, avec un exemple, celui de Rodney King.
La scène est filmée par un vidéaste amateur, George Holliday.
J'ai pris ma caméra et je me suis précipité au balcon. Le temps que j'arrive, ils étaient déjà en train de frapper le mec. À chaque fois qu'il essayait de se relever, il prenait un coup de matraque.
La vidéo fait très vite le tour des télés américaines et choque l'opinion publique. Des manifestations ont lieu aux États-Unis en présence de personnalités comme les acteurs Alec Baldwin et Kim Basinger. Le tabassage de Rodney King devient une affaire nationale, voire d'État. Le président George Bush réagit au scandale.
C'est insoutenable de voir ces hommes que l'on bat. Et rien, à mon sens, ne peut justifier tout cela. C'est monstrueux.
Après des mois d'enquête, les quatre policiers sont jugés à Los Angeles en mars 1992. Dans le jury, 10 blancs, un asiatique et un hispanique. Les quatre policiers sont acquittés. C'est l'élément déclencheur d'émeutes raciales dans la Cité des Anges.
Il y a eu les images sur la caméra, les preuves sont bien là, mais on s'y attendait quand même à ce verdict.
Alors Lune Riboni, là justement on a un cas de cop-watching, on a des preuves par l'image, en plus on est à une période où on peut même pas les suspecter d'être des images faites par l'intelligence artificielle en prétextant que ce sont des faux. Non, à ce moment-là on se dit que ce sont des images réelles, personne n'en doute, et pour autant, eh bien la justice n'en tient pas véritablement compte.
Ouais. Rodney King, c'est vraiment un tournant. C'est un tournant à plein de points de vue. Donc effectivement, on est en 91 et donc un voisin filme cette scène. Et donc c'est par ailleurs il faut juste recadrer, enfin mettre un point important qui est, c'est pas juste qu'on va avoir des images, mais c'est qu'il y a aussi un contexte médiatique qui va permettre la circulation de ces images et qui va être responsable aussi de leur impact. Donc au début, George Holliday dont on a parlé, il donne cette vidéo à une télévision locale qui est KTLA, voilà. Et qui va, mais surtout en fait, surtout elle va finir par arriver sur CNN qui est une jeune chaîne à ce moment-là, et donc ces images vont tourner en boucle jusqu'à ce que un des responsables de la chaîne dise que ces images tournées étaient comme un papier peint sur CNN à ce moment-là. Et effectivement, émoi national, très 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 fort, et jusqu'à, donc on l'a entendu, hein, même Bush qui va le commenter, et en fait on a l'impression, dans l'espace médiatique et dans l'espace politique, qu'il y a un unanimisme autour de ce qu'on voit dans ces images. Voilà. Ouais. On voit un homme en train de se faire tabasser.
On a la preuve de l'évidence.
Par des policiers, voilà. Et arrive le procès, et là, il se passe quelque chose qui, à la fois, est attendu à un endroit. Donc, évidemment, ces policiers sont acquittés. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont être acquittés en utilisant la vidéo. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui va choquer, et sur lequel pas mal de gens vont écrire, dont Judith Butler, d'ailleurs. Et on se demandait, mais que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'on arrive à y voir autre chose? Et c'est là qu'en fait, on va élaborer et qu'on va commencer à réfléchir à cette question de la socialisation des regards et du fait que, non seulement on peut faire dire à des images ce qu'on veut, qu'on peut en retourner le sens, en tout cas le sens que vous, moi, on a vu, mais qu'il y a des regards qui sont socialisés, construits, à regarder d'une certaine façon. Et que donc, ces regards ont pu voir dans ce corps tabassé, ce corps noir, en fait, un corps de l'agresseur. Mmh. Et ce moment-là, voilà, c'est un moment de choc qui va donc à la fois marquer et potentiellement donc donner naissance à ce qu'on va appeler le cop-watching, en tout cas comme pratique collective militante, et aussi donc à la conscience que l'image ne suffit pas.
Que l'image ne suffit pas, parce que finalement il y a l'image et puis il y a la manière dont on la regarde, la subjectivité qu'on y met. On sait très bien qu'on peut être plusieurs à assister à une même scène et avoir des interprétations complètement différentes de ce qu'on est en train de voir. Donc c'est intéressant qu'il ne suffit pas non seulement pour ramener un équilibre d'avoir les moyens de pouvoir filmer, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir contextualiser la manière dont c'est filmé, raconter aussi cette histoire. C'est pour ça que vous parlez justement à la fois de la personne qui va filmer et de la personne qui va la diffuser. Donc là c'est plutôt le rôle des médias. Geoffrey Dorn, on le sent, ça aussi, vous, avec, qui avez travaillé avec, qui avait assisté aussi David Dufresne, je crois que vous avez participé aussi à son design de sa chaîne Twitch. On voit qu'il y a aussi cette importance, effectivement, de montrer, de filmer et de publier, de diffuser, de rendre public.
Alors ça, c'est très important, en effet. On salue David Dufresne une fois de plus. J'ai pu travailler justement sur son identité visuelle et tout son travail graphique. Diffuser ces images, il y a plein de manières de le faire. Là, on le voit, et vous en parliez, François, par rapport aux intelligences artificielles. On a le problème avec la véracité de ces images. Alors, évidemment, les images, elles ont des données à l'intérieur qu'on peut venir masquer, modifier, transformer. On a des images générées par des intelligences artificielles qui sont parfois qui créent parfois le doute, on le voit sur Internet. Et puis, il y a forcément les champs contre champs. Et donc, tout l'intérêt aussi d'avoir des citoyens reporters qui viennent faire des photos. Là, on l'a vu pendant le 8 mai avec le président sur les Champs-Élysées, où il y avait cette espèce d'écran géant avec une place un peu vide. Et puis, de l'autre côté, finalement, on voyait qu'il y avait des tribunes avec quelques officiels à l'intérieur. Donc, cette notion de multiplicité des images, des caméras, des métadatas aussi. Il y a des citoyens, par exemple, qui ont mis en place sur leur smartphone des raccourcis audio. Donc, par exemple, ça j'en parle un petit peu dans le bouquin, où on dit, par exemple, si vous vous faites arrêter, vous avez un mot-clé, vous dites « dis Siri, on m'arrête », et donc la Siri se déclenche, et tout à coup, votre téléphone dans votre poche ou dans votre veste, peu importe, se lance, commence à filmer, à enregistrer la voix, le son, ce qui se passe, à envoyer un SMS avec votre géolocalisation à quelqu'un, etc., etc., à baisser la luminosité et à verrouiller tout ce qu'il faut verrouiller. Et donc, vous pouvez envoyer comme ça des raccourcis automatiques juste avec votre voix. Et donc, ça envoie une multitude de données. Et donc, pour moi, ce qui est très important, c'est pas tant d'avoir un contenu qui serait le contenu officiel d'un citoyen, mais c'est la multiplicité des contenus, des angles, et pas forcément que par la photo, mais aussi par la vidéo, par les métadatas, par les témoignages audio, écrits, des vidéos 360, des vidéos par drone, etc. Et plus ces contenus sont croisés, plus on peut faire aussi ce qu'on appelle aussi parfois de l'OSINT, à savoir
du renseignement en source ouverte. Effectivement, exactement. Ça a été l'occasion de notre émission d'il y a 15 jours sur l'OSINT. Intéressant, effectivement, ce dissérie, parce qu'on voit comment le smartphone, dont on pointe aussi du doigt sa surveillance, qui nous géolocalise, qui nous surveille, qui exploite nos données personnelles, là, lorsqu'il est détourné, puisque vous êtes un hacker, vous reprenez l'esprit aussi du hacking, Geoffrey Dorn, dans vos ouvrages et dans vos exemples, on voit qu'un détournement justement du smartphone peut devenir une sorte de petit ange gardien qui à ce moment-là va donner un message particulier à quelqu'un qu'on aura choisi, va s'enclencher, va filmer de manière la plus discrète possible. Avant de donner la parole à Jean-Paul, juste je revenais sur votre exemple américain dans les années 90, lorsqu'on est dans un monde qui est gouverné par la télévision et par la radio et par des médias traditionnels. On voit bien l'importance d'une chaîne comme CNN qui va publier, qui va offrir une caisse de résonance très forte par rapport à un acte presque isolé d'un individu qui vient filmer quelque chose. Aujourd'hui, on n'en est plus tout à fait là, parce qu'on est tous un peu devenus des médias. Alors, effectivement, quand on est David Dufresne, on va le citer pour la troisième fois, et qu'il y a déjà une communauté, il est un média en lui-même. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'importance de la publication est moindre. Elle est nécessaire, sans doute, pour avoir une caisse de résonance. Mais on peut arriver, finalement, à être témoin et média en même temps.
Alors oui, mais c'est toute, c'est quand même la difficulté, parce que c'est-à-dire à la fois, bien sûr, on peut publier donc sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch. on peut mettre des contenus en particulier audiovisuels en ligne. Pour autant, reste quand même, et on l'a vu pendant les Gilets jaunes, on l'a vraiment bien vu pendant les Gilets jaunes, qu'on peut avoir des centaines, voire des milliers de vidéos, par exemple, qui documentent des violences policières, tant que le système médiatique traditionnel ne le traite pas, ça peut rester dans nos réseaux, nous le voyons, mais à un moment donné, ça peut rester une question qui n'est pas reprise par la classe politique.
Donc c'est la question de la légitimité, alors. Est-ce que c'est la question de la légitimité dans le sens ou dans le regard que l'on prête justement aux médias traditionnels, c'est cette crédibilité, cette légitimité. En gros, si ça passe à la télévision, c'est que ça a vraiment encore existé. Et si ça n'existe que sur les réseaux sociaux, c'est que ça n'existe peut-être pas. On est encore une fois dans cette distinguo de regard.
Ça dépend à qui, de qui on parle. Enfin, pour qui est-ce que c'est la légitimité? Mais en tout cas, par exemple, pour la classe politique, il est évident que cette légitimité persiste. Et que le système médiatique traditionnel, quoi qu'on en dise, reste quand même un endroit qu'on a du mal à dépasser, quoi. Parce que, certes, on peut avoir de la contre-information, de la contre-production en ligne, et il y a des choses très très puissantes qui ont pu être créées de cette façon-là. Mais disons que quand même, le système électrique traditionnel reste un indépassable à un endroit, quoi.
Effectivement, et là vous mettez le doigt sur cette presque fracture un peu générationnelle que l'on peut vivre en ce moment, avec à la fois des images sur les réseaux sociaux plutôt consultées par un public jeune qui est peut-être davantage conscient de ce qui se passe à l'intérieur des manifestations, et un public plus traditionnel, fidèle à son média, dont on montre moins, par exemple, les violences policières. Donc on conteste même l'intitulé du terme de violence policière, ça a été le cas sur la chaîne BFM TV. Donc on voit ici qu'il y a effectivement un parallélisme, en fait, chacun dans son couloir. Donc c'est pas totalement la souveillance, parce que la souveillance, c'est la rencontre aussi, Jean-Paul Formentreau.
Moi, ce que j'y vois, c'est que, effectivement, si ce genre d'actes militants, d'activistes aussi, ont besoin peut-être encore des relais des médias officiels, il y a quand même une articulation qui s'opère et qui est intéressante, ou une complémentarité des points de vue qui se renforce et qui. J'ai l'impression que. Si les pouvoirs de la surveillance se sont renforcés et accrus depuis finalement à la fois d'un point de vue institutionnel depuis la promulgation de la loi d'état d'urgence, la loi sécurité globale
2015 et ensuite 2021.
La militarisation de la police aujourd'hui que dénoncent beaucoup de penseurs aussi comme Mathieu Rigouste et autres.
Et autres associations.
Autres associations également. Ce qui conduit aussi à une complexification des théories, puisqu'on sort finalement de la surveillance disciplinaire, panoptique, incarnée dans une institution carcérale ou autre que décrivait Foucault. On sort également de la surveillance théorisée par Deleuze, à ciel ouvert, des sociétés de contrôle. Y compris d'ailleurs de la surveillance ou celle des sociétés d'exposition que Bernard Harcourt problématise en parlant de servitude volontaire ou de surveillance participative.
Là, on revient justement aux réseaux sociaux, et c'est l'une des thèses de son ouvrage où finalement on donne beaucoup à voir, donc quelque part on s'expose, donc on devient vulnérable. Vous êtes critique d'art, je le disais en préambule, Jean-Paul Formentreau. Paolo Siro, on va rester justement sur la question de la police qui regarde. Paolo Siro, dans son œuvre, il a voulu justement renverser les dispositifs de surveillance de la police en mettant la police, cette fois-ci, dans le cœur de cible, dans le cœur du viseur. Vous nous présentez l'œuvre de Paolo Siro, puis on l'écoutera à Capture 2020.
Ok. Donc moi, j'ai l'impression que les techniques changent. Si on reprend le parallèle entre panorama et panoptique que problématisait Benjamin aussi avec en même temps que Foucault, on voit que les technologies sont plus celles exclusivement de la vidéo, de l'optique, etc. Mais on a affaire à une double surveillance optique et algorithmique. Et la notion de panorama aussi s'est élargie à l'ère numérique, puisqu'on le voit avec des applications comme Google Street View, PhotoSynth, QuickTime... ou d'autres, les caméras 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout cela participe à la surveillance, et ce sont des médias qui interrogent les artistes aujourd'hui à l'ère numérique, et notamment Paolo Cirio,
qui va... Vous le prononcez mieux que moi.
Cirio,
si.
Il est italien, bien sûr. Qui va détourner... Alors, on peut comparer ça à Allocinth, d'une certaine manière, ou found footage, c'est-à-dire qu'il ne réalise aucune image lui-même. Il récupère sur la toile des portraits d'agents des forces de l'ordre saisi pendant les situations d'affrontement ou de manifestation, etc.
Enfin, en donc tout cas, des photos de presse, etc. Il va retrouver effectivement le visage de forces de l'ordre qui sont
visibles.
Des
photos d'anonymes faites par des manifestants, etc. Pendant ces altercations, des photos aussi qui ont été postées parfois par les policiers eux-mêmes dans des situations domestiques, etc. Puisque eux-mêmes ont un usage des réseaux sociaux.
Donc il n'y a rien d'illégal. Il va chercher effectivement les photos là où elles ont été publiées. Des sources ouvertes.
Voilà.
Exactement.
Ces photos, il les soumet à un logiciel de reconnaissance faciale. Crée une œuvre qui est à la fois un affichage dans les rues de la ville de Paris de ces portraits de policiers en gros plan qu'il a saisi dans ces images d'ensemble. Il va lancer une pétition pour l'abolition de la reconnaissance faciale en Europe, dimension citoyenne, dimension activiste. Et puis, la dimension artistique consiste en une exposition qui est prévue au Fresnois, au Studio National d'Art Contemporain de Lille, de Tourcoing en tout cas, et qui expose à la fois les portraits, mais aussi une application qui est une application à travers laquelle on peut identifier, soit par la reconnaissance faciale, soit aussi par l'appel fait aux internautes et au public de reconnaître et d'identifier, ce qui a pu défrayer la chronique, conduire Gérald Darmanin, ancien maire de Tourcoing, à saisir le Fresnois, l'institution, pour demander la déprogrammation de l'exposition, sous prétexte que...
Il mettait en danger les forces de l'ordre, justement, en montrer les forces de l'ordre. Et là, on voit l'asymétrie, c'est-à-dire que les forces de l'ordre ont le droit de filmer, de regarder, de scruter, d'analyser, de dataifier, d'archiver, et un artiste a questionné sa limite, justement, pour pouvoir retourner la caméra et l'intelligence artificielle sur ses forces de police, du moins la reconnaissance faciale. On l'écoute, Paolo Cielio.
Police officers are just people.
Les policiers sont des êtres humains comme vous et moi, mais ils ont accès à des armes violentes. La police doit rendre des comptes si elle est amenée à utiliser ces armes contre les citoyens. On vit à une époque où les pouvoirs sont inégaux. Les citoyens sont surveillés alors que la police n'est pas tenue responsable de ses actes et a la possibilité d'agir caché. Je veux démontrer l'injustice de ce rapport inégal au pouvoir.
Voilà l'œuvre de Paolo Cielio que je vous encourage à regarder sur Internet si vous ne la connaissez pas, parce que c'est assez impressionnant. Et puis ce côté aussi multiple, hein, c'est-à-dire d'avoir affiché l'image de la police dans les rues, de l'avoir montré aux vues de tous, il a été provocateur. Vous l'avez dit, il y a une réaction de Gérald Darmanin à l'époque. D'ailleurs, qui arrivait à un moment où la loi, on en parlait, la loi de la sécurité globale 2021 était en discussion, avec notamment un article, l'article 24. Que disait-il cet article 24, Lynn Rouani.
Alors, l'article 24 de la loi de sécurité globale, qui a donc été censuré par le Conseil d'État, à la base, donc, interdisait la diffusion d'images de la police, et surtout, c'était formulé, que je vous retrouve la formulation, diffusion d'images avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un agent. Ce qui est tout le problème, puisqu'il y a une ambiguïté absolue autour de cette formulation. Donc, cet article, donc, il va être censuré par le Conseil d'État. Pour autant, il y a un certain nombre de choses qui passent. Hein. Donc, certes, on n'arrive pas à empêcher complètement les gens de filmer et diffuser potentiellement ces images. Mais il va y avoir des cas, non seulement de répression, en l'occurrence, par exemple, un gilet jaune dijonnais en 2019.
C'est le Conseil constitutionnel qui a censuré, hein, c'est ce que vous avez dit, le Conseil d'État. Oui, c'est ça.
Un gilet jaune dijonnais en 2019 qui va être condamné à 5 mois de prison avec sursis pour avoir filmé et diffusé des images d'affrontements. Alors ça va se baser sur un autre cadre légal qui est celui du happy slapping, qui à la base servait à empêcher de filmer des rixes dans les cours d'école. Mais on va servir de ça pour condamner ce gilet jaune. Donc en tout cas, il y a une volonté quand même d'empêcher la circulation. Et moi qui ai travaillé sur la Tunisie, c'est quand même très frappant de voir que l'État français en fait reconduit littéralement des méthodes qui sont des méthodes autoritaires, celles de tenter d'empêcher la circulation des images.
Et là, on peut quand même retenir donc, que cet article 24 a été retoqué. Effectivement, il y a, d'autres sont passés, mais pas celui-là. Ce qui fait qu'on peut, heureusement, filmer toujours la police en toute impunité. Une réaction de Geoffrey Dorn, rapide.
Oui, rapidement, justement, par rapport à la reconnaissance faciale qui est employée par les forces de l'ordre sur les citoyens, par drone ou par caméra piéton. Aujourd'hui, il y a une vidéo récemment qui est circulée sur Internet où un citoyen se fait embarquer par un CRS et commence à lire son RIO, donc le petit numéro que le CRS porte sur sa tenue. Et au moment où il commence à lire le numéro du RIO, il se prend une grande tarte pour qu'il arrête de s'exprimer. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les moyens d'identifier un individu pour le différencier de toute une intégralité du corps policier, pour dire c'est cet individu-là, qui est violent et c'est pas toute la police, se retrouve confronté à la violence, alors que justement de plus en plus de policiers et de CRS masquent leur RIO justement. Et en ce sens, j'ai fait comme ça un projet il y a quelques mois qui s'appelle Indextrême, et donc souvent les policiers et les forces de l'ordre sont masqués et on ne peut pas forcément les reconnaître, mais parfois possèdent des tatouages, des insignes, des patchs, des symboles. Et ce projet, ce site internet, Indextrême, permet d'analyser, de reconnaître les symboles pour savoir s'ils ne sont pas issus de réappropriation de l'extrême droite. Donc on a parfois des croix spécifiques, on a parfois des animaux comme le cochon, comme le rat, etc. Tous les symboles qui sont en lien avec le but de l'extrême droite en France. Eh bien, ce petit site internet que j'ai designé, que j'ai créé, permet à chaque citoyen de repérer un symbole, d'aller dans la bonne catégorie, et ensuite de savoir s'il s'agit ou pas d'un symbole d'extrême droite avec son historique, etc.
Voilà, donc deux exemples d'outils de surveillance, celui de Geoffrey, donc Indextrême, et puis le RIO, qui est aussi une forme de surveillance, puisque ça permet normalement, légalement, aux citoyens de pouvoir distinguer le numéro donc d'un officier de police. Hein, le RIO, c'est une sorte comme une plaque d'immatriculation, une plaque d'identification d'un officier de police qui permet ensuite, normalement, de pouvoir tenter un recours s'il y a matière. Mais tout de suite, c'est la musique qui va venir dans le meilleur des mondes avec Vendetta et ce titre sous surveillance, évidemment.
Un monde où chacun laisse derrière lui une nuée d'indices, de données utiles, de renseignements potentiellement compromettants. Un monde où les objets connectés sont autant de mouchards qui enregistrent nos moindres faits et gestes en permanence.
Ils nous observent en permanence. Nos droits reculent pendant que Lucifer avance. Les murs ont des oreilles et parlent au bourreau par des hautes fréquences. Pour nous garder sous contrôle, ils ont fait de grosses dépenses. On est des numéros, on est des vaches à lait. On est des rois déguisés en valets. J'évolue dans un marais où l'être nous raquette et nous met les bracelets. Téléphone sous écoute, GPS dans le short. Genre ils nous scrutent à la loupe et envoient des mouchards. Le savoir est un arme, ils veulent tout savoir. Si ça sent le masque, te c'est pour un hasard. Caméra est rouge et des mecs sur radar. Ils envoient des satellites en orbite et nous condamnent à tort. Test ADN, empreinte digitale, crâne en cristal et énergie vitale. Implantation de micro-puces pour l'assurance médicale. Les mythes nous guettent et nous posent des étiquettes en fonction du choix politique, la religion ou la couleur de l'épiderme. On est abandonné au profit des banques de données. Y'a de quoi devenir parano au moins 6 fois par année.
Dans un arsenal de hangars protégés comme des bases militaires et interdits d'accès aux journalistes, sont copiées, stockées et traitées toutes les données collectées par les applications de Google.
J'ai pas envie qu'on analyse mes faits et gestes, ou bien qu'on mise sur mes faiblesses, qu'on s'introduise dans ma demeure. Moi je déteste, ils nous font passer des tests à notre insu, immoral, scrutant ce qu'on achète et nos recherches sur la toile. On est catalogué, le ciblage commercial à son apogée. Braquage de vie privée osé quand leurs micros sont posés, car on est sur écoute au quartier général. Faut faire gaffe, ça sent trop les poursuites criminelles et pénales. Naître avec une puce électronique pour y mettre ton historique. Big Brother nous nique, t'inquiète, c'est pour y connaître même ton IP. Car de nos jours, tout est sur nos cellules ou PC. Bientôt, on aura tous notre propre code UPC. Car pour eux, on est des chiffres ou menaces potentielles. Photos d'un satellite et dossiers confidentiels. Ils nous épient jusque dans les quartiers résidentiels. Mettons-nous à l'abri, y'a beaucoup trop d'yeux dans le ciel.
Vendetta sous surveillance dans le meilleur des mondes, tout de suite c'est le journal.
Better, happier, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Et on commence ce journal comme on ouvre un dictionnaire. En 2023, le petit Robert a annoncé cette semaine les nouveaux entrants, des mots écrits noir sur blanc pour la postérité, et nos usages numériques alimentent cette nouvelle édition du Robert à foison. Le métavers, qui peine toujours à trouver investisseurs et applications concrètes, a tout de même trouvé sa place dans l'univers bien réel du dictionnaire. Cela va sans doute amplifier l'aspect performatif du concept, une reconnaissance qui pourra le faire advenir ou pas. On reste dans le Web 3 avec l'arrivée de Crypto Art pour saluer l'engouement des œuvres NFT ou de minage des crypto-monnaies. On sent ici quand même le Robert à la pointe de la blockchain, bien que Instagrammable ne débarque que maintenant, ce qui prouve que la commission peut être en avance sur certaines technologies et prendre son temps pour entériner un mot qui dessine ici une image digne de figurer sur le réseau social de la mélodie du bonheur. Reste à voir si les filtres Insta vont tenir la cadence du temps et des effets de mode. Enfin, se faire ghoster, nouvel anglicisme n'en déplaise aux puristes de la langue française, trouve sa place à la lettre G, pratique habituel et peu agréable des sites de rencontres ou autres messageries. Il s'agit d'une disparition soudaine de son interlocuteur qui s'évapore sans crier gare pour ne devenir que le fantôme de sa présence.
Tu t'es fait ghoster, t'as le seum, tu sais pas comment réagir, t'inquiète, on va en parler.
Eux aimeraient bien être davantage des fantômes pour leurs parents qui ne peuvent s'empêcher de publier sur les réseaux sociaux des photos de leurs mésaventures. Eux, ce sont les adolescents, parfois victimes indirectes de traces laissées par des parents souvent bien intentionnés qui publient des photos de leur progéniture dans des situations malaisantes. Tiens, malaisant est aussi un nouveau mot du Robert. Malaisant comme une sortie de bain, des grimaces et autres combats acharnés avec une purée de carottes. Une étude de l'Observatoire de la parentalité révèle que 53% des parents français ont déjà partagé sur les réseaux sociaux du contenu sur leur enfant. Le Sénat votait cette semaine après l'Assemblée un texte pour une meilleure protection du droit à l'image des enfants. Une proposition de loi qui cherche à introduire la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale. Un recadrage salutaire pour certains parents qui sont les premiers à reprocher à leur enfant de passer trop de temps sur TikTok tout en espérant glaner quelques likes avec ces photos attendrissantes de leur bambin sur Facebook. Paradoxe de nos vies connectées.
Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein.
Et on termine avec de drôles de gars de la marine américaine, des lions de mer qui s'entraînent depuis plusieurs mois à des jeux vidéo spécialement conçus pour eux. Avec leur museau, ils doivent appuyer sur un bouton vert, puis contrôler du regard un curseur pour le faire sortir d'un labyrinthe. À la clé, un hareng comme récompense. Le but du jeu, analyser l'évolution de leur capacité cognitive. Une centaine d'animaux ont intégré ce programme et les chercheurs pensent savoir que les animaux y éprouvent du plaisir. Bon, on doute un peu que la marine américaine investisse autant de ressources pour amuser ces lions de mer. Il y a quand même 300 personnes qui sont mobilisées pour ce dispositif. De la imaginer qu'ils les entraîneraient en vue d'en faire d'étonnants soldats marins. Il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement, car vous êtes bien dans le meilleur des mondes.
Welcome to the brave new world.
Un meilleur des mondes consacré ce soir à la sous-veillance, l'œil du contre-pouvoir. C'est bien le titre du livre Apparaître de Jean-Paul Fourmontreau qui est avec nous en compagnie de Lune Riboni, maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Saint-Denis Paris 8. Un ouvrage aussi apparaître très prochainement, Contestation audiovisuelle et politisation des images. Un livre, lui, déjà sorti, c'est Hacker Protesteur, c'est celui de Geoffrey Dorn qui est également avec nous pour parler de cette sous-veillance, concept qui tente de rééquilibrer les regards, de rééquilibrer le pouvoir pour que le surveillé puisse tenter de surveiller l'autre et de lutter contre cette asymétrie. Pourtant, la loi, puisqu'on en parlait tout à l'heure de cette loi sécurité globale de 2021, il y a eu l'adoption par l'Assemblée nationale très récemment d'un article autorisant la vidéosurveillance, donc avec des algorithmes pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc ça sera une expérimentation, comme souvent, on sait très bien qu'on expérimente un arsenal de surveillance et puis l'expérimentation parfois dure une sorte d'éternité et puis c'est rentré dans les usages et puis il y a une acceptation par la population de ces nouveaux outils. Comment on peut justement l'analyser, cette vidéosurveillance algorithmisée? Parce que on a La France, donc, n'a pas, enfin, du moins, les chambres parlementaires ont refusé donc la reconnaissance faciale. On en parle beaucoup de la reconnaissance faciale. C'est une sorte de grand épouvantail. Geoffrey Dorn, malgré l'absence donc de reconnaissance faciale dans cette loi, c'est-à-dire que les caméras donc sont de la vidéosurveillance et on va utiliser les algorithmes pour aller repérer une démarche, un comportement dit suspect. En quoi ça peut être dangereux finalement cet usage-là de la VSA pour nos libertés?
Par rapport à la reconnaissance faciale, c'est ça?
Par rapport effectivement à l'usage de la vidéosurveillance par algorithme, algorithmisé, puisqu'il n'y a pas la reconnaissance faciale, il y a ce qui a été voté justement en vue des Jeux Olympiques.
Alors ce qui est intéressant et ce qui est dangereux aussi au travers de ça, c'est le fait qu'il y ait l'algorithme derrière. L'algorithme, il a forcément des biais, qui sont celui de l'humain qui a codé l'algorithme, des humains qui ont codé l'algorithme, et ces biais, ils sont par exemple des biais de déplacement. Donc si vous êtes une personne et que vous mettez en position statique là où il y a plein de gens qui marchent autour de vous, vous êtes considéré comme suspect. C'est ce qui peut arriver sur un quai de métro. Si tout le monde se déplace et vous, ça fait 20 minutes que vous êtes debout et que vous ne bougez pas, ça peut paraître louche. Ou alors si vous êtes une personne qui vous mettez à courir très rapidement alors que vous venez de croiser une autre personne, donc ce ne sont que des vecteurs informatiques, tout à coup, pareil, vous ressortez en termes de données, de data et d'algorithmes. Donc en fait, ça vient tout à coup transformer les comportements, induire dans la tête des utilisateurs et des personnes, on va dire, qui subissent ces algorithmes, des comportements différents. Du moment où vous savez que vous êtes surveillé, votre comportement change et vous n'êtes plus libre. Et c'est pour moi quelque chose qui est, qui est fondamental. Et puis évidemment, les algorithmes, ils ont, comme je le disais, des biais, mais ils ont aussi, ils sont aussi enregistrés. Tout ça, ça va sur des mémoires, et ces mémoires, est-ce qu'elles sont sécurisées, à qui elles vont servir? On connaît le régime en France qui est celui actuel, mais qui sait les régimes qu'on aura dans les années à venir? Et donc, un algorithme peut être utilisé d'une manière en ce moment et d'une manière très 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 différente et dans les années à venir.
Oui, c'est ce qui inquiète effectivement de nombreux citoyens et associations, c'est de se dire que finalement là, on a un arsenal qui chaque année progresse, s'amplifie par rapport à la surveillance des uns et des autres. Et demain, si un régime plus autoritaire ou autoritaire pourrait arriver au pouvoir, tout serait déjà là finalement pour nous surveiller. On voit effectivement le piège de ces caméras algorithmisées. C'est de se sentir regardé. Hein. Vous en parliez justement, Jean-Paul Formentreau, d'avoir toujours cette idée du panoptique. Il y a forcément quelqu'un qui me regarde quelque part, voire même qui analyse ma démarche. Donc forcément, lorsqu'on se sent épié, on n'est pas totalement les mêmes. On perd une forme de liberté, ne serait-ce que par une charge mentale, parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un derrière nous. D'où, eh bien, un petit recours, un petit outil pour essayer de déjouer tout ça, c'est l'obfuscation. C'est quoi l'obfuscation?
Alors c'est vrai que l'algorithme introduit une dimension qui est une dimension prédictive aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'identifier ou reconnaître, on essaie d'analyser les comportements. Et on l'a vu, certains comportements stéréotypés souvent, qu'il est facile de tromper finalement, ou de déjouer en adoptant précisément des comportements farfelus, etc., en ayant des attitudes d'obfuscation. Alors ce terme, l'obfuscation, est une ruse avec l'œil du pouvoir, ça vient du latin dissimulé au XVIIIe siècle, s'offusquer aussi en français, contester, mais c'est l'idée derrière, c'est l'idée du camouflage, de la dissimulation, des signaux trompeurs aussi qu'on adresse aux algorithmes précisément pour les tromper, des angles morts, de la furtivité. Alors pensez au beau roman de Damasio, Les Furtifs, qui jouait complètement là-dessus. En tout cas, il s'agit de limiter ou de contrecarrer le poids du profilage et de l'algorithmisation des individus aussi. Alors, de différentes manières, soit on brouille le code, c'est une des définitions possibles de l'obfuscation, c'est une résistance à l'ordre établi de la transparence, brouillage du code, ou alors aussi une ruse qui consiste à produire de fausses informations. Et de les noyer finalement dans les infos existantes, une série de contre-informations, de fausses informations, fallacieuses, désordonnées, ambiguës, qui vont venir tromper les algorithmes. Alors, y a plusieurs créateurs font ça, par exemple Zach Blass, qui utilise des masques qui permettent de déjouer la reconnaissance faciale, puisque précisément en se maquillant ou en ayant des masques
un peu les formes... fameuses données biométriques de singularité du visage sont altérées, donc exactement. On ne sait pas qui est qui. On voit aussi des t-shirts qui vont brouiller les pistes avec des faisceaux. On peut parler aussi des lasers qui vont essayer d'altérer la manière dont ces caméras nous surveillent. On a aussi des artistes. Alors vous allez prononcer encore une fois mieux que moi, Ito Steriel.
Ito Steyer.
Et ben voilà. Mais ça c'est pas d'italien, mais elle est allemande.
Oui, berlinoise, hein, qui effectivement a créé un film qui s'appelle How Not to Be Seen, une espèce de parodie des tutoriels d'instruction militaire, on pourrait dire ça comme ça, et qui envisage, en parodiant un film d'ailleurs des Monty Python à l'origine, toutes les tactiques possibles, au nombre d'une dizaine de tactiques qui consistent à se rendre invisible, soit précisément en se maquillant, se déguisant, etc., pour tromper, pour offrir de nouveaux signaux qui trompent les caméras de reconnaissance faciale, soit de se transformer soi-même en image, littéralement. Après, c'est une vidéo qui est quand même un peu...
Il y a un côté caméléon, c'est qu'effectivement, elle va se fondre dans une image.
Exactement.
Elle va devenir l'image, l'image est censée être...
Le caméléon est une stratégie. Hein. On sait que Adam Harvey, par exemple, utilise ça en l'empruntant d'ailleurs aux navires qui se camouflaient pour être invisibles, alors même qu'ils... Enfin, voilà, en étant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais une espèce de camouflage, de peinture qui rendait ces navires militaires
totalement invisibles en se fondant dans le décor. Geoffrey Dorn, vous aussi, il y a des outils de camouflage dans votre guide, dans votre outil?
Tout à fait. Alors, on en parlait justement de ces motifs. L'obfuscation, c'est une technique de hacking. Hein, et il y a aussi, dans ces nombreuses techniques que les hackers possèdent, il y a ce qui s'appelle le reverse engineering, donc l'ingénierie inversée. Et donc, j'invite tous nos auditeurs à réfléchir et à comprendre comment fonctionnent ces algorithmes, comment fonctionnent ces méthodes d'analyse pour une fois qu'on les comprend, on les inverse. Et donc, c'est ce qu'a fait Bruce McDonald, qui est un développeur qui habite à Vancouver, au Canada, et qui a justement décortiqué les différentes méthodes algorithmiques de reconnaissance faciale, etc., et qui a réussi à les inverser pour pouvoir créer des motifs et des patterns qui viennent perturber les caméras, la reconnaissance, etc. Et puis aussi, vous avez, pour les gens qui ne veulent pas forcément se lancer dans des choses aussi complexes, de plus en plus d'outils logiciels qui permettent, quand vous prenez une photo, de flouter automatiquement les visages ou de masquer les visages quand vous les diffusez, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui permettent aussi de protéger des citoyens, enfin, en tout cas, de rendre anonymes des citoyens qui manifestent, si vous partager par exemple une vidéo, une photo d'une manifestation.
Pour bien comprendre et me faire un peu l'avocat du diable, Geoffrey Dorn, toutes ces propositions, ces outils, ces astuces, ces ruses qui vous sont proposées, elles ne sont pas forcément dans le but de permettre à des gens de commettre des actes illégaux, c'est plutôt des ruses d'un point de vue philosophique, c'est bien ça, c'est d'arriver justement à échapper à une forme de surveillance totale pour préserver sa liberté.
La question, est-ce qu'une manifestation est illégale ? Si c'est le cas, en effet, c'est commettre un acte illégal que de manifester. Et donc, évidemment, il y a une volonté de préserver ces libertés, les libertés pour lesquelles nombreux d'entre nous et par le passé se sont battus pour avoir. Donc, pour les avoir, pardon. Et donc, je pense que c'est l'usage de ces techniques de détournement, de réappropriation, de bidouillage, etc. Il faut qu'elles puissent être mises à dessein de la justice sociale, la justice environnementale et puis une plus grande équité, évidemment.
Alors justement, détourner, déjouer l'ordre du pouvoir, c'est un récit que l'on peut également voir dans différentes fictions et ça va être l'objet de la première chronique d'Aurore Gate. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue dans le meilleur des mondes, vous êtes journaliste chez Numérama, on a l'habitude d'entendre Marcus Dupont-Bénard et Marie Turcan d'habitude, et vous êtes là pour la première fois pour nous parler d'une œuvre Hunger Games.
Eh oui, Hunger Games, c'est une trilogie de livres dont le premier est paru en 2008 et qui a été adapté en film en 2012. L'histoire prend place à Panem, une version des États-Unis complètement dystopique et totalitaire qui organise tous les ans les fameux Hunger Games. Pendant ces jeux, chacun des 12 districts du pays doit envoyer un garçon et une fille, âgés entre 12 et 18 ans, et tout ce petit monde va devoir s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un.
Il a été décrété que chaque année, les 12 districts de Panem offriraient en tribut un jeune garçon et une jeune fille, âgés de 12 à 18 ans, afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie et préparés à se battre jusqu'à la mort.
Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester tel que je suis.
Moi, je n'arrive pas à penser comme ça.
Voilà pour la déclaration d'intention, mais comment est-ce que cette riposte s'annonce ?
Eh bien justement en contournant la surveillance et le voyeurisme mis en place. Les Hunger Games sont des jeux télévisés à travers tout Panem, une sorte de jeux olympiques suivis religieusement par une grande partie des citoyens. Les participants aux Hunger Games, qu'on appelle des tribus, sont filmés 24 heures sur 24. Exploits, meurtres et trahisons sont retransmis en direct à la télé. La violence est justifiée, vue comme nécessaire. Les dirigeants s'attendent à du sang et à de la violence, et absolument pas à ce que les candidats s'entraident. Or, c'est exactement ce que font les deux héros de la saga, Katniss Everdeen et Peeta Mellark. En essayant de protéger une autre candidate et en refusant de s'entretuer devant des milliers de caméras qui retransmettent leurs faits et gestes, Katniss et Peeta commencent, sans le savoir, une rébellion. La surveillance constante des candidats se retourne alors contre tout le système des Hunger Games. Les dirigeants ne peuvent pas masquer que deux jeunes ont choisi de leur désobéir et toute la nation en est témoin. Leur voyeurisme, pensé pour instaurer la répression, va causer leur perte.
Alors est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Hunger Games est toujours pertinent ?
Complètement. Hunger Games a marqué toute une génération et c'est toujours l'une des sagas dystopiques les plus populaires du monde. Le discours du livre était novateur pour la littérature jeunesse de l'époque et il est toujours pertinent sur l'oppression des systèmes totalitaires et l'utilisation des nouvelles technologies pour instaurer la surveillance permanente. Ce que l'on retient d'Hunger Games, c'est que la rébellion prend le totalitarisme à son propre piège. Le voyeurisme imposé permet à toute la population de se rendre compte qu'on peut désobéir, qu'il existe des alternatives. On pourrait presque voir les livres et les films comme un guide de survie pour les jeunes en milieu totalitaire. Hunger Games, c'est un peu la désobéissance civile pour les nuls.
Merci beaucoup, Aurore, pour cette première chronique dans le meilleur des mondes, Lune Riboni. Peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, c'est de se voir comment ce dispositif s'est retourné, finalement. En voulant tout montrer, il y a eu un acte de solidarité qui a été massivement médiatisé, ce qui n'aurait pas dû être le cas, puisqu'il a fomenté, il a enclenché une rébellion.
Oui, bah merci beaucoup pour cette chronique et pour d'avoir convoqué Hunger Games, qui a quand même été un phénomène effectivement super important. Et de le présenter par ce biais-là, du coup, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est un espèce de utiliser les outils qui sont ceux de la surveillance, là, oui, en tout cas du monde médiatique, pour le retourner contre lui. Moi, ça me fait penser à autre chose, qui est utiliser les images. Je ne sais pas du coup si le collègue en parle dans son livre, mais utiliser des images qui sont des images de surveillance pour les détourner et en faire autre chose. Mmh. Et l'exemple qui me vient, c'est Forensic Architecture, dont je pense qu'on a pu déjà parler ici peut-être, je ne sais pas.
Oui, dans le cadre de l'émission sur le Zint, voilà. Qui est donc basée à Londres, qui va utiliser beaucoup de ressources en sources ouvertes avec une approche à la fois architecturale, de chercheurs multiples pour dénoncer les crimes de guerre et les méfaits des États.
Et il y a un exemple en particulier d'une enquête qu'ils ont fait, qui était une enquête qui utilisait en fait les images produites pour le contrôle des frontières au niveau de la Méditerranée, et qui se sont servis de ces images pour montrer qu'il y avait eu non-assistance à personne en danger, puisqu'un bateau avait été abandonné, alors qu'en fait, il y avait des bateaux autour qui pouvaient y apporter secours. Et donc, il y a vraiment cette idée de dire, on va retourner cette image contre eux, et ils affirment dans le compte-rendu qu'ils font de cette enquête, que d'une certaine façon, c'est des regards désobéissants, voilà, qui s'approprient ces images-là, les images qui sont celles de la surveillance, qui sont celles de l'Europe forteresse, et qu'on va s'en servir pour, au contraire, montrer qu'on a abandonné à sa mort, à leur mort, des gens. Et que c'est ça aussi, des regards désobéissants, c'est reprendre ces images et les retourner.
Donc finalement, on pourrait se dire, mais d'un point de vue un peu provocateur, que plus il y a d'outils de surveillance, plus il y a potentiellement d'armes qu'on peut retourner contre le surveillant lui-même.
Bah, alors oui, potentiellement, mais il va falloir y réfléchir sérieusement, parce que là, on est quand même un peu cerné entre les drones, les satellites, les caméras piétons corporelles, les caméras sur les hélicoptères. Ça fait quand même beaucoup de choses.
Oui, mais il y a en même temps une démocratisation de ces technologies-là qui rentrent dans le grand public. Et il me semble qu'il y a cette fragilité du regard que décrivait Foucault, elle est toujours là, elle est toujours présente. C'est-à-dire le fait de pouvoir se sentir surveillé, c'est aussi être soi-même avec ces outils-là, possiblement surveillants, mais ou sous-surveillants, justement, des autres.
Et puis, on a tous des caméras dans notre poche. Donc, exactement. Voilà, maintenant...
On a tous des caméras.
Et des outils informatiques aussi. Au Synth, c'est fabuleux pour ça, c'est-à-dire l'open source. On voit que la surveillance, ça passe aussi par la contre-enquête et par le partage aussi des résultats de cette contre-enquête, d'une certaine façon, y compris ce que fait Paolo Cirio, c'est intéressant. Il passe par le fake, d'ailleurs, c'est-à-dire il fait des contre-récits aussi. Par exemple, l'incitation faite à la délation ou à l'identification des policiers, selon comment on le perçoit, était inopérante. C'était un fake. Ouais. C'était pas fonctionnel réellement dans l'application, mais c'était là pour alerter d'une certaine façon.
Mais ce qui aurait été un peu contre-productif par rapport au discours de Paolo Cirio, de pouvoir justement permettre une plateforme de délation. Mais c'était intéressant de voir justement qui allait avoir recours justement à cet outil-là. Et puisqu'on a ouvert avec l'art, on peut terminer avec une note artistique. Et puis dans le prolongement d'Hunger Games, on a vu le rôle justement de l'art pour rendre visible l'invisible. C'est aussi une grande force de la pratique artistique. La fiction aussi a été un moment clé. Dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup des Misérables aussi, qui a été un film de Ladjli, ouais, qu'on a entendu d'ailleurs en début de cette émission, qui participe également avec une œuvre fictionnelle à des outils de surveillance pour alerter, pour montrer.
Parce que ça s'inscrit dans l'histoire du cop-watching, de fait, et que c'est un film grand public. Donc il y a une portée beaucoup plus forte, là, si justement la surveillance est quelque chose d'assez confidentiel. Avec des films comme cela, ça permet aussi de toucher un public beaucoup plus large.
Voilà, toucher un public beaucoup plus large. J'espère qu'on aura participé justement à toucher un public avec cette émission passionnante sur la surveillance, le regard qui se retourne, comment on regarde aussi et qu'est-ce qu'on y met comme subjectivité. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné. Merci à Aurore pour cette première chronique. Je remercie à la réalisation de l'émission Camille Mathy, accompagnée à la technique d'Hugo Renard, à la réalisation vidéo Noé Chaban, et comme d'habitude et chaque semaine à la préparation réalisation, Juliette Deveau et toujours notre stagiaire Héloïse Robert. Le meilleur des mondes s'est terminé pour ce soir, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine.